Vous écoutez le Tarot de la Cité.
Et bonjour à tous, nous sommes mardi 20 janvier, il est 14h et on ouvre la Cité des Interdits avec, ouais. Avec Étienne.
Bonjour.
Bonjour Étienne.
Alain.
Bonjour Florie.
Salut. Et Bastien la technique. Coucou.
Salut Bastien.
Le 20 janvier, on passe du Capricorne au Verseau. Nous réalisons ou nous aimons. Voilà, je le place comme ça, pourquoi pas.
Capricorne.
Comment ça va?
Ça va bien. Il fait beau. L'année s'ouvre.
Bien. Comme le jeu.
Exactement.
Alors, c'est la troisième fois que tu viens, c'est un parcours de santé.
Exactement. Une fois par an, pour l'hygiène esthétique et intellectuelle.
Bien joué. Eh ben, quoi d'autre, Alain? Est-ce que tu as une actu, quelque chose à raconter?
Pas particulièrement. Je suis toujours aussi enthousiaste de cette recherche sur les utopies. Parce qu'à chaque fois, c'est inattendu, ce qui est révélé est inattendu. Et ça finit par faire un contour de ce que les utopies peuvent avoir de sens pour chacun. Et peut-être collectivement, on verra, un jour.
Et toi, est-ce que tu as une actu, quelque chose de...
pas particulièrement, mais justement, c'est vrai que le mot d'utopie résonne quand même pas mal, parce qu'on est plutôt confronté en ce moment à la dystopie par rapport à ce qui se passe dans le monde, au remous, à l'incertitude, et puis y compris ce qui se passe en France. Donc... finalement, raison de plus, sans doute, de penser l'utopie.
C'est une belle introduction, oui. Oui, oui. La dystopie étant le chaos absolu, tel que ça se passe en ce moment. Pardon.
Ok, alors... pour ce faire, on va quand même le faire un peu dans une forme de chaos, puisqu'on va décrire des images... Non, je rigole. Allez, on ouvre la carte numéro 3.
Alors, donc, je retourne la carte numéro 3. Et je vais commencer par vous la décrire. Donc, c'est une carte avec un fond orange. Un bel orange, bien uniforme, bien chaleureux. Et puis, sur cet orange, on a déjà tout en haut à droite, on a un rond blanc. Un rond qui peut faire penser à un disque solaire, bien blanc. Et puis, sur quand même une très grande partie de la carte, un peu dessous, on a comme deux personnages dont on distingue les têtes, avec des yeux, avec des bouches, des têtes noires, avec des yeux en spirale. Le premier personnage... il a comme une espèce de chapeau ou de bonnet. Mmh. On distingue bien ses oreilles. Mmh. Elles ne sont pas réalistes. Elles sont presque comme si on était sur un dessin d'enfant. On voit son corps avec des petits bras, mais bien potelés.
Oui.
Une espèce de petite gambette. On ne distingue pas trop exactement s'il a un vêtement, s'il a une combinaison... son expression est plutôt concentrée dans ses yeux. Il y a quelque chose qui, moi, m'évoque une expression plutôt positive. Et puis, il est avec un autre personnage qui a l'air d'être plus en retrait, un peu plus petit, peut-être un tout petit peu plus craintif dans l'expression. Pareil, avec une tête, avec des traits en spirale. Mais avec un chapeau un peu plus pointu. Et puis, il a un poisson bleu.
Ah bon ?
Il a un poisson bleu.
En cravate.
En cravate,
ah, d'accord. Très beau.
On ne sait pas trop si c'est sa cravate, si c'est son jouet. C'est peut-être une peluche de poisson bleu.
Oui.
Voilà, on a ce couple, ce duo de personnages. Et puis, alors, le orange, leur position, la tête du premier, m'inspire plutôt quelque chose, moi, de bienveillant, mais il y a aussi quelque chose d'un peu enfantin, d'un peu ludique. Voilà, on est dans le jeu, peut-être un peu dans quelque chose qui est de cet ordre-là, quoi. Donc,
ils ont l'air d'être ensemble.
Ils sont ensemble, ouais. Moi, j'ai l'impression vraiment que le premier protège le deuxième, d'une certaine manière. C'est comme si deux enfants qui jouaient, et le premier qui est peut-être un peu plus balèze, un peu plus mastoc.
Oui.
Comme s'il ouvrait un peu la voie, quoi. Et que le deuxième, il n'a pas peur. Il n'est pas terrorisé, hein. Il n'a pas des traits terrorisés. Mais il est peut-être un peu plus craintif, un peu plus... Tu crois qu'on a le droit?
Oui.
Alors, tu crois qu'on va par là?
Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a un dialogue comme ça d'interrogation. Oui.
Et le premier qui dit, ouais, allez, on y va. Et c'est...
Oui, le plus grand.
Oui, lui, dans son regard, ouais. C'est sûr. Enfin, c'est ouais. Facile, il n'y a pas cette crainte, quoi.
Voilà, c'est un regard presque confiant ou... Je dirais peut-être pas déterminé, mais en tout cas, voilà.
Ou de connaissance, par exemple.
Voilà.
Il sait, quoi.
Donc, oui. C'est vrai que si on doit penser l'utopie, il y a une question du jeu enfantin, il y a la question de l'autorisation, il y a la question, effectivement, de la... Peut-être de la posture un peu de jeunesse par rapport aussi au fait de s'autoriser ou d'avancer sur un chemin, justement.
Mmh.
Ce qui encourage, du coup, à le faire à plusieurs, au moins à deux, quoi. Parce que tout seul, si on était le deuxième petit personnage, peut-être qu'on n'oserait pas. Alors que, puisqu'on est avec son ami, son copain, qui lui donne plus confiance ou a plus confiance ou inspire plus la confiance, bah, peut-être qu'on peut y aller.
Mmh.
Et s'autoriser à avancer vers ça ou s'initier à ça. Donc, voilà. Alors, il y a aussi ce soleil. Je me demandais un peu inconsciemment si c'était une lune ou un soleil. Mais finalement, j'opterais plutôt pour le soleil, pour un franc soleil.
C'est ça. Ouais.
Bien, bien puissant, bien clair avec cet orange.
C'est ça.
Disant que, voilà, plutôt un symbole, du coup, un symbole positif, un symbole d'éclat. Voilà.
De lumière, ça fait la lumière.
Ouais, c'est ça.
Ça fait comme un projecteur, quoi. Mmh,
tout à fait.
Très bien. Alors, ce poisson, il n'interroge pas plus que ça. Il est là.
C'est pour après partie... verso, le poisson. Non.
il fait partie du décor. Voilà.
Bah, ouais, il renforce pour moi le côté un peu enfantin.
C'est ça, c'est ça.
Le côté un peu décalé.
Oui,
je me fais penser à ces jouets, des fois un peu incongrus, qu'on utilise pour autre chose que ce que c'est.
Mm.
Bah là, voilà, ça pourrait être une cravate, effectivement.
Mm.
Ça pourrait être la partie d'un déguisement.
Ah oui.
Il y a quelque chose...
Il y a quelque chose qui est...
Il y a le bleu qui renvoie un peu au trait du premier personnage... qui a un joli bleu aussi, qui fonctionne très bien d'ailleurs avec ce orange. Les deux ensemble, ça produit plutôt quelque chose d'apaisé là aussi. C'est pas dans la cassure. Donc, moi je le verrais plutôt du côté du jeu, ce poisson.
Oui. Et pourtant, ces regards, ils ont quelque chose d'étrange. Ils sont comme dans un pays que l'on ne connaît pas.
Ouais, ils sont. La spirale des yeux pourrait être effrayante,
oui.
S'il n'y avait pas ces traits enfantins,
oui.
Et s'il n'y avait pas ces couleurs. Si on remplaçait les couleurs et qu'on changeait un peu la position, notamment des lèvres du premier personnage, on pourrait presque y déceler quelque chose d'autre. Mais là, c'est vrai que c'est plutôt. C'est plutôt un regard confiant, quoi.
Mmh.
Voilà.
C'est une imagerie. C'est une imagerie de... Oui, oui, oui. Il y a bien.
On regarde la carte après ?
Oui.
Allez, je la mets sur le podcast de la radio.
Il s'agit de la carte numéro 12. Alors, cette carte, je vais vous la décrire aussi. Donc, on est dans une carte complètement différente que je prends plutôt en paysage.
Ouais, elle... Moi aussi, comme ça aussi.
Effectivement,
ouais.
Comme s'il y avait une partition de la carte avec tout en haut deux petites cases en ligne l'une blanche, l'autre noire, avec sur la gauche de chacune de ces cases une espèce d'insecte blanc sur fond noir pour la première case blanche, noir sur fond blanc pour la deuxième case noire, un insecte avec un tronc un peu en poire et 6 petites pattes et une petite tête. Voilà. C'est pas quelque chose de terrifiant.
Non.
Voilà, c'est un petit insecte qu'elle a, qui est un peu comme l'homme de Vitruve, qui montre un peu la son anatomie. Et puis qui surplombe deux autres cases, plus grandes, beaucoup plus grandes, et cette fois colorées. On retrouve en médaillon de ce qui ressemble à une tête. À une tête un peu abstraite, un peu avec des géométries ou des formes un peu étranges, mais où on pourrait percevoir une bouche, un nez, des yeux, des cheveux. Mais où c'est pas totalement défini. C'est quand même pas très clair, cette histoire-là. Et sur les deux cases, en fait, on a un jeu de couleurs. Chaque couleur n'étant pas nécessairement l'opposé de case à case de l'autre, mais où par exemple sur la première case on est sur un fond bleu, plutôt bleu nuit, plutôt bleu, voilà, un bleu un peu sombre, avec ce personnage qui a, enfin cette forme qui ressemble à un personnage qui est plutôt dans une espèce de jaune, lui aussi un peu sombre, des cheveux blancs et gris, des traits blancs, une bouche bleue, des yeux bleus, comme si ça se fondait justement avec l'arrière-plan. Alors que sur l'autre case, on est sur un fond... Tu l'appellerais de quelle couleur, ça, Florie? Parce que c'est vrai que c'est une espèce de quoi? De
beige.
Vert, beige...
Kaki.
Ouais, kaki. Hein.
Clair.
Ouais, un kaki clair, ouais. C'est une couleur un peu fade.
Mais en même temps,
qui est pas désagréable,
ouais.
Mais qui est pas du tout comme l'orange de la carte précédente, quoi. Qui est pas du tout éclatant.
Ouais, c'est plus doux.
Plus doux, plus. Mais par contre, qui tranche bien avec le bleu.
Ouais.
Ça, vraiment, il y a une belle coupure du coup. Et le personnage, lui, est moins monochrome. Il a des cheveux noirs. Il a justement une peau bleue, mais pas le bleu nuit. Un bleu un peu plus intense, un peu plus clair aussi.
Un peu plus indigo, ouais.
Ouais. Il a des yeux et une bouche plus claire aussi, allant vers le jaune.
Ça alors, ressemble un peu à des singes, non?
Ouais, il y a une espèce de nez. Oui, t'as raison, ça ressemble un peu à un visage de mandrille. Il y a quelque chose d'un peu comme ça. Ou alors un masque
oui.
Un peu totem.
D'une civilisation.
Un masque dogon, quelque chose d'un peu, voilà, avec des... Une stylisation, on n'est clairement pas dans un visage réaliste.
Ah non.
Et alors, je sais pas, alors ça m'évoque deux choses qui sont peut-être pas contradictoires d'ailleurs. Ça m'évoque en même temps le choix, parce qu'il y a des différences, donc peut-être qu'il faut choisir l'un ou l'autre.
Ok.
Ou alors l'évolution, donc un changement de l'un vers l'autre. Ce qui me fait penser au choix, c'est plutôt le blanc et le noir, parce qu'il y a quand même, ça fait deux propositions un peu tranchées avec ce quadrillage, sans forcément que ce soit de droite à gauche ou de gauche à droite d'ailleurs, parce qu'il y a aussi quelque chose de haut en bas ou de bas en haut en termes de cases avec ce système. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que les insectes, l'insecte de la case du haut répond à la case du bas opposée. Donc on pourrait se dire qu'il y a quelque chose aussi d'un peu de l'inversion ou de l'évolution dans l'inversion, voilà, d'une espèce de dialectique comme ça, qui pourrait être représentée aussi, symbolisée dans ce médaillon, voilà.
Oui, et l'objet ce pourquoi ils sont dans la même carte.
Tout à fait.
Alain nous met des alarmes. Il est 14h15 et nous allons écouter donc la... Waouh.
Non, mais c'est... Alors, ça peut être justement une alarme, cette carte, sur attention. Il y a bien un moment où il faut choisir.
Ah oui.
Ça pourrait être aussi ça. Et l'alarme d'Alain vient nous le rappeler en disant attention, il faut que vous vous décidiez si c'est une carte de choix ou une carte d'évolution, de changement.
Alors, dans l'oracle de la semaine, on a la roue de la fortune qui parle de changement et d'évolution.
Ah, bah c'est plutôt une indication intéressante, alors. Il faut se raccrocher à ça. Et ça peut être quelque chose de aussi...
Mais voilà, on peut faire le choix de ce changement et de cette évolution, surtout.
Bah, ce qui est bien, c'est que là, on peut aussi le penser comme quelque chose presque de circulaire. Hein, c'est-à-dire qu'on peut passer de ça à ça. Enfin, quand on suit la logique des insectes, on peut être aussi sur quelque chose de...
Et il y a deux temps, quoi. Il y a un temps... Il y a le temps noir, le temps blanc, le temps... Enfin, ça va être tac, tac, ou... Le temps du bruit, le temps du silence, je ne sais pas. Bon, on va quand même faire cette petite pause musicale pour dire qu'on est sur Radio Campus Grenoble dans la Cité des Interdits et revenir pour plonger un peu plus ensuite dans le jeu. Merci de votre écoute.
C'était une carte d'enfant avec le signe de la punaise.
La carte numéro 12, voilà.
Esa vida no me quiere, ya no hay colores, no hay amor, y todo sabe a gris color. Pájaro, pájaro se va volando, olvida el dolor. Canto para los que están despiertos, canto para los que tienen miedo, canto para los olvidados.
Soy el pájaro que pinta el horizonte. En mi pico llevo cartas, en mis alas los dolores. En el viento llevo plumas, el pincel de los colores. Ante mis apariciones, en ti la duda consigo. Pájaro, eres el rey de los sabores. Eres el rey de los amores.
Chouette, on est de retour dans la cité des interdits. Ah, on ouvre la carte numéro 29.
Alors, je retourne la 29 et je la décris. Alors, on est aussi dans une carte à partition, mais cette fois, c'est plus pareil. C'est marrant parce que il y a des couleurs, et en plus de cette partition qui me rappelle un peu à la carte qu'on vient de faire juste avant et à l'enfance. Alors pour la décrire, il faut s'imaginer une carte qui ressemble déjà un peu plus à un roi ou un valet, peut-être.
Ouais, une carte à jouer, quoi.
Une carte à jouer, voilà, avec un personnage en haut et en bas, avec une division justement
en diagonale.
Sachant que là, on n'est pas du tout dans un personnage de pouvoir. C'est un personnage aussi. Et c'est un personnage un peu en reflet. Mmh. Il y a une symétrie. Mais il n'a pas d'attribut. Il n'y a pas de couronne, il n'y a pas de sceptre. C'est là qu'on s'éloigne de la carte à jouer, on va dire, pour rentrer dans quelque chose d'autre, dans un autre miroir. Sachant que ce qui passe un peu de case à case, ce qui est en même temps symétrique, mais on pourrait dire ça, peut-être que ça circule entre les deux, c'est des insectes. C'est des insectes volants, des espèces d'abeilles, d'abeilles ou de guêpes, qui a un peu des deux côtés. Et on a un côté quand même en termes du personnage. Donc moi, la manière dont j'ai pris la carte, c'est vers le haut. Le personnage du haut qui est plus coloré.
Le orange.
Voilà, il y a du orange, un bleu justement assez clair, assez puissant, presque sur le bleu clin. Un jaune aussi, presque en auréole sur la tête du personnage. Comme s'il y avait effectivement une illumination ou quelque chose de brillant. Et effectivement, ce orange qui prend aussi une partie de son visage. Donc c'est orange qui fait penser à la première carte. Hein,
et de son corps aussi.
Voilà. Et puis qui englobe aussi un peu quelques-unes de ses abeilles. Et puis de l'autre côté, on retrouve quand même un peu d'orange sur le visage. Mais c'est pas symétrique. Il y a une espèce de...
C'est direct, ligne directe.
Voilà. Et puis, le fond est plutôt gris, plutôt pâle, mais on a une espèce de jaune éclatant, celui de l'auréole, qu'on retrouve entraîné.
À l'oreille gauche.
Voilà. Et alors, c'est très marrant, parce que là aussi, finalement, il y a la question du changement. Il y a la question peut-être de l'introspection ou du rêve. Il y a la question peut-être du jour et de la nuit. Il y a la question peut-être aussi parce que le personnage est déjà fait plus adulte que la première carte. On a quelque chose qui est de l'ordre.
Peut-être. Ah bah là, ils sont plus du tout ensemble serrés.
Ah oui, mais c'est-à-dire que peut-être qu'on est dans quelque chose où on grandit parce que on n'a plus besoin de l'ami imaginaire. Et qu'on comprend bien que de sa dualité à soi, parce qu'on n'est pas toujours complètement rassemblé, on n'est pas toujours raccord, on n'est pas toujours... on peut douter, on peut s'interroger soi-même. On peut avoir aussi des fois des conflits intérieurs, des questions à trancher. Peut-être que entre ces couleurs, ces abeilles... c'est aussi peut-être des idées ou des envies, du désir. Moi, j'aime bien les voir comme des idées ou du désir au sens de le désir de faire, le désir de réalisation. Parce qu'elles sont avec ce jaune qui, pour moi, est quand même assez solaire. Et puis, elles volent. Elles volettent. En même temps, l'abeille, pour moi, c'est toujours quelque chose de noble parce que c'est le miel. Elle est ouvrière, l'abeille. Elle produit quelque chose qui est quand même... Une merveille de la création, quoi. Le miel, c'est quand même incroyable.
Une denrée impérissable.
Ah, oui. c'est quelque chose. Voilà, les Mayas le prenaient comme un produit divin, capable de soigner quasiment tout. Le miel, je sais pas, ça me fait penser à l'hydromel aussi. Enfin, il y a des Et puis il y a des miels tellement différents. Voilà, moi j'ai mon petit péché, voilà, c'est le miel de fleur d'oranger, voilà, dans le yaourt avec de la noix, c'est délicieux le miel. C'est, voilà, donc effectivement, ces petites abeilles comme des idées qui viennent polliniser ou faire circuler justement des idées, des envies, mettre en discussion ces idées et ces envies entre les dualités ou les conflits dans le dialogue qu'on a avec soi-même pour permettre aussi de se positionner, d'évoluer même quand on n'est pas toujours raccord, même quand on est peut-être des fois un peu clivé. Alors après, la notion de conflit, elle apparaît pas tellement dans cette carte. Moi, je la lis plutôt, voilà, comme le fait de changer peut-être un peu de position, mais malgré tout, cette disposition de carte, c'est pas une disposition de confrontation. On n'est pas dans la bataille. Là, on est plutôt dans la dualité du sujet. Voilà. La dualité du sujet, mais pas comme le duo enfantin, plutôt voilà, comme la dualité de l'un. On n'est pas dans le duo qui peut avancer ensemble. On est plutôt sur les deux possibilités, ce qui ramène aussi au choix. Ou à l'évolution, encore une fois. Mais d'ailleurs, les deux sont tout à fait possibles, hein, au final. On peut très bien décider de trancher et de donner raison à l'une ou l'autre de ces
hypothèses.
Voilà, de ces hypothèses.
Oui. C'est intéressant ce que tu racontes, parce qu'il y a le groupe des abeilles signifie quelque chose d'un commun dans l'intention du commun. Et que ce personnage qui se répète, qui semble être le même, et qui peut-être s'interroge-t-il sur son unicité dans ce commun, quelle valeur pourrait avoir l'homme dans ce monde animal, et quel est le rôle qu'il pourrait avoir dans cet esprit du commun qui n'est pas abouti chez l'homme.
Tout à fait.
Qui est toujours un exercice. Et parler de dualité, ça tombe bien. Ça tombe exactement bien, parce qu'on n'a pas un état psychique déterminé, constant. Voilà, bon, c'est un peu ça que ça m'évoque lorsque tu parles.
Oui, puis c'est vrai que des dualités, il y en a beaucoup, quoi.
Oui.
Le sacré ou le profane.
Oui, il y a beaucoup.
Le frivole, le sérieux.
Oui.
Bien sûr, bon, la vie et la mort, bien évidemment. Hein, c'est-à-dire que... Mais encore une fois, voilà, sur des états affectifs, sur des tonalités aussi, ou des humeurs, presque.
C'est ça. Et peut-être que ça a à voir avec, avec l'utopie, puisque tu aimes bien en parler. Une utopie, ce n'est pas un objet fixe.
Ce n'est pas un objet fixe. Et en même temps, là, ce que ça m'évoque en le raccrochant à l'utopie, c'est aussi les moments de doute.
Très fort.
Les moments de détermination.
C'est ça.
Et peut-être le fait que d'échec en réussite ou de réussite en échec, on a aussi des fois cette dualité d'état. D'humeur,
fatigue.
Voilà,
le côté,
c'est ça, puis c'est ce côté qui est très compliqué, je pense, quand on veut changer la vie et construire quelque chose.
Oui.
C'est que, bah, parfois, on se sent traversé d'un feu sacré et capable de déplacer des montagnes, et d'autres fois, au contraire, tout s'écroule et d'une certaine manière, on perd la foi. On pourrait le dire avec sans doute des mots très différents, d'ailleurs.
Oui, oui.
Le découragement, l'abattement.
Oui.
D'autres fois, justement, on est gonflé d'espoir. Il y a quelque chose aussi. Et puis, là, on est dans une dualité intérieure, un peu psychique, presque.
Ah, complètement.
Mais il y a le côté collectif à prendre en compte.
C'est ça.
C'est-à-dire que finalement, cette personne gonflée d'espoir, c'est celle d'un collectif qui veut bâtir... un lieu alternatif, c'est celle d'une foule qui veut devenir cité, Et oui. Puis l'abattement, ça existe aussi malheureusement. Enfin, malheureusement, ça fait partie d'un cycle ou en tout cas d'un état de fait. Mmh. Un abattement collectif, ça existe aussi. Hein. La résignation, la sidération, le fait que, y compris dans un couple, dans un petit groupe, des fois, les choses se délitent. Donc, parce qu'on n'y croit plus, parce qu'on est fatigué. Et que. Voilà, l'alternance entre espoir et puis au contraire doute, entre énergie et fatigue, voilà. C'est peut-être ça.
C'est le régime du moment.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est plutôt encourageant, je trouve, comme carte, parce que ça montre aussi peut-être une cyclicité et le fait qu'on n'est pas condamné à un seul des états, dans ce cas-là.
C'est ça.
Ce qui est quand même plutôt encourageant.
C'est ça.
Justement, la dystopie inviterait à penser qu'on est condamné simplement à l'échec, malgré toutes ces tentatives. L'utopie, si on y réfléchit en étant réaliste, on sait très bien que c'est quelque chose de parfaitement dur à atteindre. Mais au moins, c'est un cap qui parfois peut soulever les cœurs, même si des fois, on doute quand même qu'on y arrivera à la fin. Mais au moins, la plupart du temps, ça peut gonfler les cœurs d'espoir. Et ça, c'est quand même positif.
Mais tout ce dialogue que tu racontes, c'est le dialogue intérieur de ce même personnage.
Tout à fait.
C'est bien résumé, je trouve. Bravo.
Ok, super. Merci beaucoup. Parce que comme on est très à point sur l'heure, je fais le sonneur d'heure à cette nouvelle alarme de la demi-heure pour écouter cette seconde. Musique, et on regarde la carte après. C'était quoi cette musique? La deuxième, tu te souviens?
Je pense que c'est Afternoon Memories.
Ok, à tout de suite dans la Cité des Interdits. Voilà, de retour dans la Cité des Interdits pour ouvrir la quatrième carte, numéro 62.
Alors, la carte 62, tout autre chose. C'est une carte assez fascinante, parce que les cartes d'avant, finalement, elles avaient un graphisme de carte, ou comment dire, de dessin.
Ouais.
Là, on est saisi quand on retourne par une impression de paysage. Enfin, il y a un paysage.
Oui.
Photo quand même. Ouais.
Voilà, plus type photo. Mais un peu sépia. Enfin, pas sépia, mais un tout petit peu. Voilà,
Avec
un grain, on est dans quelque chose d'un peu sombre. On est sur une plage. On voit une ligne d'horizon dans l'eau. Une plage peut-être plutôt méditerranéenne, hein. On n'est pas sur des grandes vagues. Et puis on a un ciel nuageux, mais c'est des petits nuages épars, ils sont là, donc on n'est pas en plein soleil, mais on n'est pas non plus dans le gros nuage d'orage là. On est sur une après-midi, à la plage. Avec, en premier plan, comme si c'était devant nous, un personnage assez difficile à décrire, parce qu'en même temps, on a un corps de femme qui ressort d'une manière assez lumineuse, en fait. La peau, la chair, les formes, ses seins, on voit le galbe de ses jambes, de ses cuisses... on voit aussi un bras, et puis en même temps, on est presque dans l'être mythologique. On est dans la muse ou dans l'esprit, dans un ange ou dans quelque chose de mythologique, parce que cette silhouette n'a pas une tête de femme, mais on est plutôt presque là aussi comme avec un masque d'Ogon ou un masque rituel. Avec un rose un peu pâle, des yeux en bleu et puis des formes un peu géométriques, surmontées par une image un peu d'insecte, de ailé, comme une espèce de sauterelle à ailes. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que au-delà de cette de cette espèce de tête masque.
Oui.
On a son bras droit, ouais. Alors que la main gauche, de l'épaule jusqu'à la main, à droite, on a une aile comme une espèce de très belle aile d'oiseau ou de paon. Ouais. On est dans la plume, donc c'est pour ça que ça me faisait penser à quelque chose d'angélique, à quelque chose d'un peu... On est sur une belle couleur bleue, mais il y a aussi du bleu plus clair, un peu de blanc, quelques plumes orange.
Oui.
Donc on retrouve en fait les couleurs de la carte précédente, mais justement dans cette espèce d'aile... d'aile d'ange.
Un peu. Ouais.
Alors je sais pas, peut-être qu'en fait là ce qu'on voit c'est une muse. Peut-être qu'on voit quelque chose peut-être qu'on voit quelqu'un qui justement rend visite pour venir discuter, ou alors peut-être que c'est ça l'utopie, peut-être qu'en fait c'est une des images de l'utopie.
Ah oui.
Peut-être qu'en fait c'est peut-être une projection, effectivement, de l'utopie et de cette espèce de direction vers laquelle on veut aller. Hein, la figure de l'ange, ça fait penser à la figure du rêve, du coup. Parce qu'effectivement...
très fortement, oui.
Voilà, on est dans un rêve éveillé, parce qu'on est sur cette plage très réaliste.
C'est ça.
Et puis on rêve de cette personne. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est sur une plage... bien sûr, on voit le ciel, mais la plage, c'est quand même quelque chose qu'on relie fortement à l'eau. Et en même temps, on est dans une espèce de jeu de symboles, parce que on va aller chercher du côté de l'aile, de la plume, donc plutôt du ciel, de l'air.
Oui.
Et pas dans l'écaille, pas dans la branchie, voilà. Ce qui pourrait être d'ailleurs quelque chose de fascinant par ailleurs. Mais là, on va chercher, voilà, plutôt dans l'aérien. Alors, la plage, bon... Moi, personnellement, ça m'évoque plutôt des vacances. Si on enregistrait l'émission et si j'avais grandi justement dans un village de pêcheurs ou dans une ville portuaire, ça m'évoquerait sans doute d'autres choses. Mais c'est vrai que moi, ça m'évoque plutôt le repos, l'été, quelque chose de contemplatif, quelque chose... parce que là, en plus, on n'est pas dans une plage bondée, on est dans une plage pour nous, entre guillemets. Pour nous et pour cette apparition.
Presque une révélation.
Voilà. Alors, je crois que j'aime bien, finalement, voir le côté du rêve éveillé. De ce qu'on voit aussi, mais qui n'est pas encore là. Qui n'est pas là ou pas encore là. Et donc, de ce qui pourra venir. Alors, peut-être que un homme pourrait rêver de sa femme idéale. Puisque le corps féminin, là, dans l'image, pourrait suggérer quelque chose, mais je ne crois pas qu'il faille tant sexuer l'image. À mon avis, c'est surtout le côté de l'utopie, c'est un mot féminin.
Oui.
Donc je dirais que voilà, c'est ça qu'on devine, c'est ça qu'on voit, mais en fait, vu que c'est quand même un peu indéfini et indécis, peut-être qu'on n'est pas encore capable de savoir trop si l'utopie a une paire d'ailes, par exemple, ou une paire de bras. On ne sait pas encore trop. On ne sait pas encore trop à quoi ressemblent ces traits. Peut-être que le visage de l'utopie, on le garde pour la fin. Peut-être que pour l'instant, on choisit de lui mettre ce masque parce qu'on n'arrive pas à dépasser les mots symboles et que pour l'instant, on n'arrive pas trop à définir exactement la couleur des cheveux ou des yeux.
J'ai envie de parler de quelque chose qui me surprend dans ce que tu as dit, probablement parce que c'est pas clair. On n'est pas forcément attaché par le seul corps de la femme, puisque ce personnage il porte presque un casque, comme s'il y avait une intention un peu plus de conquête, encore plus grande, qui fait dépasser l'idée du genre.
Alors de conquête ou alors de mystère.
Oui, en tout cas qui décale avec le réel. Le corps est un prétexte, mais ce n'est pas une finalité.
Au même titre que l'aile est magnifique. L'aile est magnifique et c'est vrai qu'il y a un jeu de couleurs comme ça entre le bleu de l'aile et le rose, enfin le rose noir du casque, hein, parce que le casque, il est vraiment comme ça dans une dualité.
Oui.
Qui est, où là, tout de suite, voilà, on est dans ce jeu de couleurs qui sort complètement en fait de l'habitude, du réalisme, du corps humain et de même de du sable ou de l'eau.
C'est vrai, c'est vrai. Et c'est même tellement vrai qu'on ne sait pas exactement l'heure du jour. Qu'est-ce que c'est ? Ce jour est bizarre. Il n'y a pas de. Il appartient ni à la nuit ni au jour. Il est encore dans.
On est dans l'entre-deux.
Oui, puis il est dans justement dans ce que tu dis être du rêve. On ne peut pas s'appuyer sur des objets, ils ne sont pas cohérents entre eux. Enfin, comment se fait-il qu'on voit cette aile de cet oiseau bleu qui signifie tellement bien la plume, c'est une faculté merveilleuse. On peut s'évaporer, on peut se mouvoir dans toutes les directions. Il y a quelque chose que ça qui est intéressant dans cette carte, c'est que c'est jamais stable. Alors le casque, lui, il paraît plus stable, mais c'est ça qui est un peu une interrogation dans toute l'image. Pourquoi on voit quelque chose de beaucoup plus définitif, alors que c'est complètement empreint d'imaginaire.
On va regarder la carte suivante.
D'accord.
Alors, on est sur la 77.
Oui.
Que je découvre. Oh.
Voilà, je crois qu'elles vont bien ensemble.
Oui. Alors, c'est marrant parce qu'effectivement...
Je l'ai posté.
Ça fait des symétries symboliques un peu inattendues. Donc là, on est sur une carte plutôt paysage, mais dans une carte partitionnée. Et cette fois, ce sera une carte qu'on lira de droite à gauche, comme nous y invite un personnage central qui est situé justement à l'intersection des deux cases, on pourrait dire. Ce personnage, on part d'une chimère avec une chimère un peu mythologique, utopique, avec un corps avec quelques attributs féminins. Là, on est plutôt dans un corps humain avec des attributs masculins, assez musclé, plutôt jeune, enfin comment dire, jeune au sens...
D'athlète.
Un corps d'athlète, ça ouais. C'est sûr, mais voilà, une trentaine d'années peut-être.
Ouais.
On n'est pas dans ni un corps d'enfant, ni un corps de vieillard, par exemple. Voilà.
Ah non.
On est quelqu'un vraiment...
Une perfection presque physique.
Plein de vigueur. Et qui est situé entre deux cases. Ces deux cases qui représentent toutes les deux, mais d'une manière dont les couleurs et l'ambiance, entre guillemets, que ça produit, invite là aussi à la dichotomie, deux champs d'arbres, deux vergers, on pourrait dire, mais plutôt avec des arbres, des feuillus... qui ont perdu justement leurs feuilles. On est dans l'automne ou l'hiver, peut-être. On a ces prés.
Il y a deux saisons à gauche et celle l'automne à gauche et à droite l'hiver.
Oui, tout à fait, puisqu'effectivement, on a cette impression de donc à droite, c'est le regard est appelé à commencer, entre guillemets, à avoir une progression entre la case de droite, où du coup, on a... comme si le sol était blanc et les arbres blancs et le ciel noir.
Oui.
Et donc dans quelque chose qui est sans couleur, quelque chose qui est très
paysage d'hiver,
du noir et blanc, voilà, ou un paysage d'hiver.
Oui.
Tout à fait. Quelque chose où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas de, comment dire, quelque chose de figé. Et puis où on va
arrêter, à travers
ce personnage central dans cette espèce de pré verger avec du vert, ce vert déjà des herbes vertes et puis un beau nuage dans le ciel. Ce beau nuage, il est éclairé par du soleil, un soleil tombant peut-être. Mais en tout cas, on a quelque chose, là, on est dans le règne de la couleur.
Ok, alors, je me suis un peu dispersée parce que j'entendais plein de bruit. Et l'heure avance à une vitesse dingue.
Ben oui.
Ce qui fait qu'il nous reste peu de temps pour aller maintenant regarder tout ce fil narratif et aller chercher cette utopie.
Ah.
Car, il nous reste une dizaine de minutes.
Ah oui.
Sonneur d'heure, Alain aime bien.
Voilà,
donc cette carte, toi, tu dirais qu'elle est venue raconter quoi par rapport à l'autre ?
Mais je dirais que c'est le passage justement de l'idée figée à l'action, à la réalisation, au mouvement, mais qui est aussi un peu une lutte, qui nécessite une force, qui nécessite justement quelque chose
qui a à voir avec l'énergie.
C'est ça.
C'est amusant que ça puisse symboliser autant l'énergie.
Ouais.
Et précisément, le personnage, il regarde vers la lumière. Donc, on passe bien on lit à l'envers. On lit de droite.
C'est comme si, justement, avec ses bras, avec cette espèce de force dans le torse, on passait de la première case à l'autre.
C'est ça.
Et qu'on prenait bien appui, d'une certaine manière, sur... sur ce monde de couleurs pour emmener ce monde figé de l'autre côté, pour faire changer la saison,
pour
ramener le printemps par la force, parce qu'on nous a condamné à l'hiver, là, ce printemps, coûte que coûte, avec un bon coup de jarret, on le ramènera. Il y a quelque chose de prométhéen, il y a quelque chose, c'est Prométhée, c'est Atlas, là aussi on n'est pas... On n'est pas dans le masculin, comme réalité. On est plutôt là dans un principe plus mythologique, Prométhée, j'aime bien. Atlas, d'une certaine manière, pourquoi pas, puisqu'il porte le monde. Mais là, il déplace le monde. C'est pas la même chose. Il le porte pas, il le déplace.
Ouais.
Ou alors il l'ouvre.
Ouais.
Il permet de faire revenir la lumière. Il permet de laisser entrer le soleil, comme dirait la chanson. Et ça, c'est intéressant.
10 minutes.
Ok. Est-ce qu'on écoute une musique pour se reprendre et après on cherche ou...
Avec plaisir.
Allez. Et c'était quoi?
C'était Time for Time de Nickel Kennedy and the Croc.
Ok, on se fait une minute trente. Et à tout de suite sur Radio Campus Grenoble. Je vous conseille de l'écouter jusqu'au bout parce qu'elle a l'air savoureuse, cette musique. On va y aller, a-t-on dit. Il nous reste exactement un peu moins de 8 minutes.
8 minutes pour redonner la parole à Étienne parce qu'il a eu beaucoup de vivacité dans les descriptions. Et cette vivacité, elle indique quelque chose de tout à fait profond. Et je voudrais bien te solliciter pour que tu essayes de voir dans la continuité du déroulé des cartes s'il y a des évolutions de sens, d'utopie, de volonté. C'est la volonté du hasard, hein. Bien sûr que ce n'est pas toi qui as choisi l'ordre des cartes, ni même les cartes. C'est le hasard qui les a ainsi estimées.
Ah si, si, il a choisi l'ordre des cartes, mais il n'a pas choisi les cartes. Enfin, il les a mis en ordre dans sa sélection hasardeuse.
C'est ça, c'est ça.
Ah, quand même.
Oui, oui.
Pardon.
Étienne est actif. Hein. Je te redonne la parole si tu veux bien.
Je te remercie, Alain.
Oui.
Effectivement, on était parti dans quelque chose avec la première carte,
oui.
Qui était plutôt du côté de l'enfance, de cette espèce de duo.
Oui.
Comme si, avec des traits de dessin assez enfantins.
Oui.
En même temps, quelque chose d'assez positif, une carte orange, comme ça, avec un soleil.
Oui, oui.
Et puis, ce duo dont un personnage confiant, un personnage plus craintif. Donc, on est peut-être là dans les premiers dessins, avec des traits d'enfance, sur le projet de cette utopie. On n'ose pas forcément y aller, mais on prend confiance petit à petit parce que
oui.
D'autres y vont, ou une partie de soi, justement, n'a pas peur. Et en même temps, on est vite confronté avec la deuxième carte à un choix, à des dichotomies, à des dualités qui peuvent apparaître comme inspirées des mêmes formes, mais allant vers d'autres, vers des couleurs ou des choix de couleurs différents. Ou en tout cas vers des évolutions de cette pensée, de ce projet, de cette direction,
oui.
qui petit à petit se définissent, mais sur des traits encore un peu à gros traits. On reste encore, d'une certaine manière, dans quelque chose de pré-adolescent. Hein, on est dans quelque chose peut-être qui est...
D'où le 12.
Voilà. Et puis, finalement, on en vient... à interroger en permanence, à avoir un cycle permanent, une dialectique d'analyse, de réflexion, pour justement faire circuler des idées avec la troisième carte, qui peut aussi représenter ce à quoi on pense le jour, ce à quoi on pense la nuit, une circularité entre des idées et des rêves, mais entre des moments de doute, des moments de résignation et des moments au contraire d'allant, de courage, d'ambition,
oui.
Des moments où on est joyeux, des moments où on est plus triste. Donc,
oui.
En même temps, une cyclicité, une circularité,
oui.
Un dialogue,
oui.
Justement,
oui.
Entre les deux, qui est nécessaire pour vraiment nourrir, faire grandir, faire maturer, rendre adulte,
oui.
En fait, le projet vers lequel on veut tendre.
Je ne vais pas couper ton élan, bien au contraire. Je veux réalimenter ce que tu viens de nous raconter, là, sur trois cartes. Il y a quelque chose qui est assez frappant dans, je dirais, l'évolution. Ouais, c'est une manière de dire. Et puis, tout d'un coup, j'ai envie de prendre la parole parce que le personnage mythique... mythologique, qui est du rêve éveillé, etc. On est en train de perdre le 2, mais on a encore le 2.
Mmh. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Peut-être que le masque, il est là, en fait. Le masque dont tu parlais dans cette apparition un peu mythique, mythologique,
oui.
En fait, c'est le visage qu'on avait dans la carte 2. Donc, on commence à définir des choses.
Ouais. C'est ça, exactement.
Mais on est encore
c'est ça.
Dans quelque chose qui nous vient de cette enfance, qui n'est pas tout à fait partie.
C'est vrai, il y a dans la rêverie, de l'enfant, il y a des images probablement qui se produisent, qui ne sont pas si naïves que ça.
Tout à fait.
Et qui surprennent parce qu'un enfant peut avoir des rêves qui ne sont pas du tout aussi naïfs qu'on veut les représenter dans les livres d'enfants. Il y a des choses un peu extraordinaires qui naissent de l'imaginaire de l'enfant. Et si on arrive à la dernière maintenant, on a encore ce formidable passage. Et là, le passage revient. C'est le fait d'être dans cette figure athlétique qui va, elle, servir de passage.
Elle revient, voilà, avec cet élan, cette énergie de vie, cette
oui.
Force de vie.
Ce
Spinoza dirait ce conatus, quoi. Il y a une puissance,
oui.
Une projection,
oui.
Un déplacement. Et en fait, dans quelque chose qui est aussi beaucoup plus... beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire
oui.
Que les deux dernières cartes, à mon avis, fonctionnent ensemble parce que...
Très fortement,
elles,
oui.
Elles ne s'opposent pas. C'est parce qu'on a un idéal, une mythologie, un rêve qui est visible de manière éveillée, qu'on a la force de déplacer ces montagnes, de faire passer... de faire que l'hiver passe au printemps.
Oui.
C'est parce qu'on a ce rêve éveillé qu'on a cette force dans la vie tout court pour agir et pour faire changer les choses.
Alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce qui s'est passé parce que ça me sidère que d'essayer de rapprocher comment on va de l'enfance à la maturité. Parce que la dernière carte, c'est aussi quelque chose d'extrêmement établi et fondé et qui est explicite quelque chose de notre humanité. Et notre humanité, elle est dépendante de quelque chose que je trouve magnifique, si j'ose le dire, puisque ça me semble être l'utopie que je ressens, c'est la mue.
Tout à fait.
C'est comment cette force extraordinaire du passage de l'enfant à l'adolescence... Et puis même de cette inquiétude entre le genre qui n'est pas affirmé, qui tout d'un coup va finir par se révéler. Et pousser, vraiment, ça se révèle parce qu'il y a une force, une action très très forte. Et cette mue n'est pas finie, parce qu'après, on va se muer dans un autre sens, où on va probablement, notre humanité va s'amoindrir, on va vieillir.
Et en même temps, les saisons, elles, de toute façon, se perpétuent et d'autres prendront le relais.
C'est ça.
Et d'autres sujets, puisque là, il s'agit bien d'un jeu.
C'est ça.
D'autres sujets, individuels ou collectifs, prendront ce relais et
oui.
Continueront notre humanité, justement, par
oui.
Des mues et par cette évolution.
Cette perpétuelle mue, elle est très, très belle parce qu'elle ne dit pas simplement « il se transforme ». en papillon, c'est trop étroit pour l'humain. L'humain produit beaucoup plus de choses, même biologiquement.
Ouais, là, on est en train de dépasser le sablier à partie.
Ah.
Mais la mue, l'utopie de la mue.
Voilà.
Je ne sais pas ce que j'en pense.
Le passage.
J'aurais bien cette semaine. Merci beaucoup de votre écoute. Merci Étienne.
Merci Étienne.
Merci de m'avoir.
Merci Alain.
C'est très beau.
Bravo. Merci de votre écoute. Merci à la radio, à toi Bastien Technique, aux locaux du ciel à Grenoble. Et puis, je sais pas.
Bonne mue.
Ciao. On ferme la cité des interdits.